Bonjour à tous et bienvenue sur Papa Velours. Je m'appelle Simon Olivier et un vendredi sur deux, je reçois un père pour parler de sa paternité et de sa recherche d'équilibre de vie. Aujourd'hui, nous sommes avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est entrepreneur. Il a créé Vista, le premier ballon de foot responsable fait en France. Dans cet épisode, avec Jean-Baptiste, on parle de son aventure de papa. Il est père de deux enfants. Des hauts, des bas pour sa famille, pour son couple. Avec Agathe, ils sont aménagés à Marseille depuis 2 ans. On parle aussi de la fatigue en tant que parent, de son aventure entrepreneuriale avec Vista, de son quotidien finalement d'entrepreneur et de père qu'il met aussi en lumière dans sa newsletter Par Entrepreneur. On y va ?
On y va.
Ok, bah merci beaucoup Jean-Baptiste d'avoir accepté mon invitation pour parler sur ce podcast.
Écoute, avec grand plaisir. Ouais, franchement, j'ai dit... Oui, tout de suite, c'est limite, je voulais participer, tu vois. Non, c'est un sujet qui me touche particulièrement et merci pour ton invitation.
Ouais, avec grand plaisir. Ouais, j'ai vu dans ton oui de, sur LinkedIn, il y avait je sais pas combien de majuscules et c'était le plus gros oui que j'ai dû avoir, je pense. Mais non, c'était trop cool. Et peut-être pour commencer, Jean-Baptiste, je te propose de te présenter toi et aussi de présenter ta famille dont on va beaucoup parler aujourd'hui.
Clairement. Donc, moi, j'ai 31 ans. Avec ma famille, on habite à Marseille. J'ai 2 enfants qui ont tous les deux moins de 2 ans. L'arrivée à Marseille, c'était un peu c'était un changement de vie, quoi. On a monté une entreprise, on a eu 2 enfants, et on en est là, quoi.
Trop bien. Bah, on va repartir des débuts, du coup. Tu dis déménagement à Marseille, du coup, c'était avant d'avoir des enfants, du coup, vous avez déménagé, c'est ça ?
Oui, c'est ça. En fait, on a déménagé à Marseille juste après le confinement. On attendait un enfant.
D'accord.
Notre premier, Lazare, il est né en octobre 2020. Juste après, au moment de l'épisode des confinements. D'ailleurs, il est né là, je crois, au moment du deuxième confinement. Je sais plus trop.
Ça devait être ça au niveau des dates, ouais. Ouais. Pas eu de problème d'ailleurs pour assister à l'accouchement.
Écoute, j'ai eu plus de problèmes pour le deuxième accouchement en 2022 que en 2020. En 2020, d'accord. J'ai assisté à tout, et en 2022, j'ai assisté à l'accouchement. Mais on en parlera peut-être. Mais ma femme était positive, sauf qu'on l'a su 5 minutes avant l'accouchement. Enfin, 5 minutes avant moment vraiment de l'accouchement, tu vois. On était dans la salle de maternité, elle était en train d'accoucher. Et ouais. Donc, à ce moment-là, le bébé est né, mon deuxième, et on nous a dit, vous partez, quoi.
Oh merde. Ok. Bon, on va en parler. Peut-être juste si on revient, du coup, à début, peut-être 2019, du coup, 2020. À quel moment, du coup, vous avez dit que vous vouliez un enfant ? Est-ce que pour toi, tu as toujours voulu peut-être un enfant ? Comment ça s'est passé ?
Ouais, carrément. Écoute, ça, je pense que c'est un peu particulier mon histoire parce que moi, je viens d'une famille où on est 8 enfants. Et on s'entend vraiment super bien. C'est trop cool. C'est mon plus gros cadeau d'avoir 8 ans, enfin, d'avoir 7 frères et sœurs. Et dans une famille où les frères et sœurs s'entendent bien, on se prend des nouvelles, on part en vacances ensemble, moi, du coup, j'ai un énorme biais qui est, c'est trop cool d'avoir des enfants et c'est trop cool les frères et sœurs. Même si évidemment, c'est pas toujours rose. Donc ouais, je voulais des enfants. Il se trouve que, avec Agathe, du coup, ma femme, elle est un peu plus âgée que moi. Elle a 6 ans de plus. On se disait que si on en voulait, il fallait pas trop attendre, voilà. Et donc, ça faisait partie de notre projet vraiment à deux, d'avoir des enfants, quoi.
Et t'es numéro combien dans la famille ? Je sais pas si c'est un.
Pour les gens qui commencent à me connaître mais qui me connaissent pas trop, j'aime bien demander parce que souvent ils disent parce que toi t'es un petit rigolo donc t'es plutôt dernier, je sais pas quoi. Non, en fait je suis le premier.
D'accord.
Je suis l'aîné.
Et ça, dans quelle manière ça a un impact, tu penses, sur la paternité ? Parce qu'effectivement, le premier, j'imagine que tu as eu vite, enfin, je suppose peut-être des choses, mais tu as eu vite peut-être des responsabilités sur les suivants, enfin, c'est peut-être plus sur les derniers, du coup. Mais
Je pense que, j'ai du mal à le dire, je pense que j'ai grandi avec la responsabilité, tu vois. J'ai grandi, ma petite sœur, de fait, dès que ma mère, elle en a eu 2, 3, mes parents, ils en ont eu 2, 3, je pense que instinctivement, je m'occupais un peu. Là, je vois mon petit qui a pas 2 ans. je lui demande d'aller mettre une couche à la poubelle, il met la couche à la poubelle, tu vois, et je lui demande de ranger un livre, allez, il va ranger un livre. Je pense que, de fait, moi, je suis né avec ça, avec des responsabilités, donc ça m'a pas du tout... Enfin, il y a eu aucun moment de cassure où je me rappelle pas de traumatisme lié à ça du tout dans mon enfance, quoi. Ouais, après, je pense que ça fait vraiment partie de moi maintenant. Aimer prendre des responsabilités, aimer assumer des responsabilités, aimer prendre la parole aussi, aimer être écouté, tu vois, ça fait partie des trucs. Vouloir, vouloir une famille, avec des enfants qui s'entendent bien, qui jouent ensemble.
Et donc ça t'a sûrement préparé du coup à devenir père, mais après plus concrètement du coup au moment où vous avez appris du coup que Agathe était enceinte et au moment où t'es devenu vraiment père, comment toi tu t'es préparé, comment t'as vécu aussi cette période de grossesse?
Ouais, c'est vraiment une bonne question là. C'est nous déjà il y avait un petit truc qui était donc Agathe elle a l'endométriose, donc avec un petit sujet de est-ce que ça va marcher,
ouais.
Qui était un stress, tu vois, qui était une angoisse qui était là. Alors c'était là sans que ça nous prenne on allait voir, mais c'était là quoi. Donc ça c'est une première donnée. Et moi en tant que, enfin j'essayais, moi en tant que le mec, j'essayais de prendre du recul par rapport à ça. C'est difficile parce que c'est pas toi, c'est pas ton corps, c'est toi, t'as envie d'avoir des enfants, mais évidemment, je sais pas très bien comment expliquer, mais il y a quelque chose, tu vois, de un peu dans l'attente ou un peu dans les fois où ça marche pas, du coup t'es là, ah zut, bon ok, bon ben on va en retenter, enfin.
Il y a une forme de désespérance ou plutôt à dire non, on reste optimiste, on reste ouvert et on sait que pour ouvert à la vie quoi. Ou...
Non, franchement il y a pas eu de désespérance parce que finalement c'est venu assez vite, mais il y a une forme, ouais, il y a des questions que tu te poses au début, tu vois, qui sont, est-ce que du coup l'option de ne pas avoir d'enfant est arrivée, enfin tu vois, alors que j'avais jamais imaginé ça, mais et là bon concrètement il y a un choix qui est mon choix numéro un c'est Agathe, c'est pas avoir des enfants, j'ai assimilé le fait que peut-être on pouvait pas avoir d'enfants et que c'était pas forcément inné ou voilà, et du coup je suis un peu rentré dans des histoires de personnes qui souffrent, qui peuvent pas avoir d'enfants. Moi c'était très, c'était assez superficiel parce qu'on n'a pas vécu cette situation, mais la question s'est posée, tu vois.
Ouais, tu t'y préparais donc, aussi pour se protéger aussi du moment où ça arriverait. J'imagine que finalement ça n'a rien à voir avec le fait de le vivre, mais au moins s'y préparer quoi.
Ouais, clairement. Et puis ensuite la grossesse, franchement au moment ou de la grossesse quoi, le début c'était un peu ok, genre ça y est, enfin je veux dire c'est en train d'arriver, c'est ouf, et en même temps pour moi impossible de me projeter 9 mois après, impossible, c'était ok, ça va arriver, mais je sais pas trop ce qui va arriver. Là ensuite on a eu de la chance, c'est-à-dire que le confinement est arrivé. Et donc on a eu beaucoup de temps tous les deux, tranquille, et ça c'était trop bien.
À ce moment-là, tu travaillais toi ou t'étais entre deux projets?
À ce moment-là, on rentrait de notre voyage de noces avec ma femme. On avait fait 4 mois en van dans plusieurs pays d'Europe. On est rentré à Paris et je montais une boîte. L'entrepreneuriat, c'est très présent dans ma vie.
On a compris, le fait de prendre des responsabilités, c'était super important.
Voilà, ensuite un tout petit épisode qui, pour le coup, a pas été facile à gérer, c'est qu'il y a eu des risques sur la grossesse. En gros, vers le 3e-4e mois, on lui dit que Agathe a un kyste à l'ovaire et impossible de savoir si c'est bénin ou si c'est cancer de l'ovaire. Et on était entre les deux trucs. Et là, j'avoue, vraiment pas marrant. Moi, j'en ai gardé une petite rancœur, peut-être contre le, je sais pas, contre l'institution médicale où en fait, il y a rien. Enfin, on voit un petit truc, et là, tu rentres dans un engrenage de personne ne veut prendre la responsabilité de te dire que c'est rien. Et donc, c'est toujours. Et donc, tu vois, en milieu de grossesse, on s'est retrouvé à faire un IRM. Avec des produits qu'il faut mettre dans le corps, machin, alors qu'il y a le bébé. Et puis finalement, on te dit ah non, bah on va peut-être opérer, mais après la grossesse. Ça a été un peu lourd. Ça a été un peu lourd. Donc c'était voilà, j'étais pas très serein pour revenir sur le moment de la grossesse en question.
Ouais.
Finalement, il y a rien eu en fait. Ouais. Finalement, le kyste, il s'est résorbé après la grossesse et c'était bénin. Et on n'en parle plus, tu vois. Mais j'avoue qu'il y a eu un moment où, on était en Bretagne pendant le confinement, on est revenu à Paris voir un méga spécialiste gynécologue pour voir si Agathe avait un cancer de l'utérus, de l'ovaire, quoi. C'est...
Ouais, j'imagine que ça rend pas la grossesse effectivement facile et calme. Et la suite, du coup, naissance, du coup, de Lazare. Toi qui disais au début j'ai du mal à me projeter, comment effectivement ça t'est arrivé tout de suite, et à quel moment tu t'es dit ouais, ça y est je suis papa là?
Quand à quel moment je me suis dit ça y est je suis papa, je pense que quand on s'est retrouvé tous les trois dans la chambre à la maternité, quoi. On s'est retrouvé le moment de l'accouchement, il est donc en plus là on a eu un accouchement assez difficile. Si je dis pas de bêtises, entre le moment où on est arrivé à la maternité et le moment où elle a accouché, il s'est passé genre 40 heures.
Ouais,
c'était elle a perdu les os, déclenchement, il y a pas eu de danger, mais c'était très 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 long. Donc là, c'était un peu, je sais pas, j'étais un peu entre parenthèses. Moi, j'essayais d'aider, mais je me trouvais un peu inutile. Je lui lisais des livres, j'essayais. Et puis t'es crevé, t'as pas dormi depuis plusieurs. Tu vois, on s'est réveillé à 3h du mat et on avait fait, je pense, au moins une nuit et demie sans dormir, quoi. Bon. Donc, par contre, quand on est rentré dans la chambre tous les trois et qu'on a été clac, tous les trois, on s'est dit waouh, c'est là, quoi. Et moi, je me suis dit ok, c'est là, c'est ça, je suis papa, tu vois. Et, ouais, et c'est là où je me suis, tu vois, je me rappelle de ma première couche. Pff, j'étais nul, enfin, je savais pas quoi faire, je savais pas que les jambes, j'avais peur, tu sais, j'avais peur en prenant les jambes de casser la jambe, enfin,
ouais,
c'est
j'imagine. Et ces premiers mois, du coup, comment ça s'est passé? Avec Lazare, découverte de Lazare, et puis Lazare qui a découvert ses parents, quoi.
Ouais. Écoute, c'était c'est un peu malheureux, mais la première chose quand tu me dis comment ça s'est passé, c'est que en gros il a eu des problèmes de santé, il a eu des problèmes de reflux, et donc on a passé 7 mois hyper difficiles. C'est-à-dire que on ne savait pas ce qu'il avait. Par contre, il hurlait, il pleurait, il hurlait dans son sommeil en dormant. Il a fait aucune nuit. Enfin, il a pas du tout fait ses nuits avant peut-être 7 ou 8 mois. Et on savait pas que c'était aussi dur. Vraiment, on savait pas que c'était aussi dur. Ça a commencé très vite. Au bout d'une semaine, on dit à la sage-femme, mais est-ce que vous pensez que c'est normal qu'il pleure comme ça? La sage-femme nous disait, mais oui, c'est normal, c'est tous les bébés, c'est les premiers parents, donc c'est normal. On va chez le pédiatre. Tu sais, au bout de 10 jours, on était lessivés. On va chez le pédiatre. Et là, t'as l'impression, tu sais, t'as envie de raconter ton malheur à quelqu'un qui va te comprendre, quoi. T'as envie d'être écouté. Et là, la pédiatre nous dit, non, mais en fait, c'est ça, les enfants. Il va falloir prendre votre mal en patience. Hein. Et là, franchement, je suis resté assis sur ma chaise. J'avais envie de pleurer. Tellement c'était dur et je me sentais pas du tout compris, quoi. Voilà, donc vraiment des mois galères, parfois avec mes beaux-parents, on était à 4 pour s'en occuper, et ben ils nous séchaient tous les 4. Je me rappelle de vacances en avril comme ça, où tu vois, il faisait des insomnies il pleurait la nuit de 1h à 2h30 du mat, de 3h à 4h30, j'étais en porte-bébé dans le salon à lui dire s'il te plaît, Lazare, essaie de dormir. on savait, tu vois, et en fait, il avait mal. Et ça, franchement, quand on a compris qu'il a, enfin, parce que du coup, il y a des moments, moi, je suis pas hyper fier, tu vois, mais il y a des moments au milieu de la nuit, t'es crevé, machin, tu dis, putain, Lazare, j'en peux plus, qu'est-ce qui se passe, tu vas bien, tout va bien, je suis là, je t'aime, machin. Et en fait, il continue de pleurer, tu vois, et toi, t'en peux plus. Sauf que on a découvert le médicament, et au bout de 2 jours, limite, ça allait mieux, tu vois. Enfin, après son développement, et jusqu'à ses 7 mois, il se mettait pas sur le ventre, il était que sur le dos, parce que a priori, il avait trop mal au ventre, et donc il était pas du tout mobile, il se développait pas. Enfin, il grossissait, mais il se développait pas et tout. À partir du moment où on a réglé le problème de l'acidité, là, c'était beaucoup plus facile. Donc. Ouais. C'est une longue réponse pour te dire, la découverte de Lazare, c'était intense, parce qu'il y a eu ces difficultés de santé. Ouais.
Et toi, en parallèle, du coup, si on fait juste le parallèle avec le côté pro, tu avais la création de ton entreprise. Et comment ça a impacté ? Enfin, du coup, tu j'imagine énorme fatigue, la nuit, peu de sommeil la nuit. Est-ce que tu arrivais du coup à bien travailler en journée, et quel point ça a impacté aussi ton aventure entrepreneuriale, quoi.
Là, on était sur une période en fait avec Agathe un peu de transition, tu vois. C'était notre arrivée à Marseille. Agathe avait pas de travail à Marseille, elle en cherchait un. Et moi, effectivement, j'étais sur un projet. J'étais sur une entreprise de formation. Et on commençait à se poser la question de Vista, donc l'entreprise de ballon. Mais j'avais un peu un rythme freelance, tu vois. J'avais un peu un rythme, je pouvais bosser quand je voulais. Et en tout cas, sur cette fin d'année 2020, début d'année 2021, je me suis pas mis la pression sur le boulot. J'essayais de tenir un rythme, mais j'avais pas la pression. Enfin, je me mettais pas la pression que je me mets aujourd'hui, par exemple.
Ouais.
Donc c'était plus serein. Plus serein, je me rappelle que j'avais plutôt facilement pris. Mais d'ailleurs, j'avais pris, je pense, 2 mois et demi, 3 mois. Je pense que j'avais pris 1 mois et demi sans aucun travail. Et ensuite, 1 mois et demi, du genre à, je sais pas, à 40 ou 50%. Et ensuite, janvier, juillet 2021, je m'occupais de Lazare tous les mercredis. Tu vois, quand je travaillais, je travaillais 4 jours par semaine pendant qu'il était à la crèche. Enfin, il était à la crèche 4 jours par semaine et c'est moi qui le gardais le 5e jour. Donc, j'étais tranquille, plutôt tranquille sur ce rythme-là.
Et à l'inverse, tu te mettais pas du coup t'avais pas cette pression de te dire, attends, faut quand même que mes projets ils marchent, faut que j'arrive à trouver aussi peut-être, je sais pas s'il y avait une pression peut-être aussi financière, je sais pas, le fait d'avoir moins de boulot ou c'était vraiment choisi et donc planifié.
Non, c'était franchement, il n'y avait pas de pression financière à ce moment-là. J'avais pas besoin de trouver des nouveaux clients parce que les clients que j'avais me permettaient de tenir l'année. Donc j'étais pas dans une recherche. On avait planifié et c'était ça allait. Donc ça c'était franchement. Assez agréable. Après, on était crevés, vraiment, vraiment fatigués. Et puis, fatigués physiquement et fatigués nerveusement, tu vois. Vraiment, usés, tu vois. Usés des nuits sans sommeil, mais des nuits avec des pleurs, avec des hurlements. Donc, à la limite, heureusement que j'avais pas... je sais pas comment j'aurais fait si j'avais eu une pression... au boulot, quoi. C'est ouais.
Ouais. Et au niveau du couple, comment vous avez réussi aussi à surmonter ça ensemble, à deux, parce que je sais, personnellement, la fatigue peut aussi mettre en danger aussi le couple. Donc, comment t'as vécu ça et comment vous avez réussi à surmonter tout ça à deux?
Ouais, ça, je pense que moi, j'aurais aimé vraiment qu'on me dise c'est chaud pour le couple. Putain, c'est... Ouais, c'est oui. T'as toutes les discussions que tu peux avoir avant de t'engager, avant d'avoir des enfants. T'as tous tes projets et tout. Et puis ensuite il y a la réalité. Et ouais, c'est chaud. Alors euh... je comment est-ce que concrètement on a fait? Déjà, je pense que c'était important, cet équilibre entre Agathe et moi, c'était important. Elle a retrouvé un travail à Marseille, donc 4 mois après la naissance de Lazare. Donc, elle a commencé 4 mois après. C'était important pour notre équilibre, pour son équilibre, de s'investir à fond dans le travail. Et par exemple, que moi, voilà, je m'occupe de Lazare un jour par semaine. C'était aussi une période où on n'était pas hyper sollicité à l'extérieur parce qu'on arrivait à Marseille, donc on n'avait pas trop de copains, on n'a pas trop de famille à Marseille. Et ensuite, c'est une période où, ouais, putain, on s'est vu, on s'est soutenu, quoi, dans le fond. Enfin, on sait qu'on se soutenait dans le fond, mais il y a des moments où on pétait un câble, l'un contre l'autre, enfin l'un envers l'autre. Tu vois, les nuits où en fait, moi je commence à crier parce que tu vois, j'en ai marre que ça pleure, j'en ai marre de pas dormir. Agathe, elle comprend pas pourquoi je crie. Voilà, évidemment, je m'excuse, mais en fait, sur le moment, moi, je suis pas un surhomme, tu vois. Genre, il y a des moments, c'est dur, quoi. Et puis, j'essaie de trouver concrètement. Je pense que moi, je suis aussi beaucoup aidé par Agathe, qui, tu vois, quand le couple va, tu vois, une période de moins bien, quand il y a moins de communication, quand ça commence à se distendre un peu, elle est hyper forte pour pas laisser passer ça, tu vois. Et moi, parfois, elle me saoule un peu, tu vois. Mais heureusement qu'elle est là, parce que ça permet de pas faire de compromis et de pas laisser s'installer des situations qui pourraient s'envenimer. Et ça, franchement, je la remercie. Elle s'est pas inventé ça quand on a eu des enfants. Elle était comme ça avant. Donc, je pense que ça aussi, tu vois, c'est OK. Il y a des moments qui sont super durs pour l'un, pour l'autre, pour plein de raisons différentes. On accepte les périodes de moins bien, mais par contre, on n'accepte pas d'y rester. Et ça, franchement, c'est plutôt à mettre au crédit d'Agathe que du mien, quoi.
J'aime beaucoup cette. On accepte qu'il y ait des périodes de moins bien, mais on n'accepte pas d'y rester. J'aime bien ça. C'est non, c'est super important pour les couples. Et pour cette constater que ça a marché en tout cas. Et puis vous êtes rapidement passé du coup de un enfant à deux. Comment vous avez pris cette décision? Enfin, comment ça s'est passé peut-être de se dire on a grandi la famille et, avec un deuxième enfant?
Ouais, ça c'est. Je pense qu'on aura des manières de le raconter différentes entre Agathe et moi. Ça s'est fait assez naturellement, mais avec un truc de. Tu sais, à un moment on s'est dit, ok, donc là on va en avoir un deuxième, mais en fait on est hyper fatigué. Genre, on était hyper content et en même temps, genre. Hyper, waouh, qu'est-ce qui vient de se passer là?
Ouais.
Et franchement, on n'est pas, nous, pour Raphaël, le deuxième, on n'est pas dans l'équipe des gens qui sont là, ok, on veut un enfant au bout de 17 mois et 3 jours, tac, tac, tac. Tu vois, non, c'est arrivé, on avait laissé la possibilité, c'est arrivé assez vite pour le coup. Et ouais, et là, c'était. Voilà, encore une fois, ouais, c'était trop bien, mais où est-ce qu'on va, quoi? Enfin, waouh, c'est chaud. Moi, encore une fois, j'ai le recul avec ma famille, et pour avoir 8 enfants, bah, mes parents, ils ont pas attendu 3 ans entre chaque. Ouais. Donc encore une fois, moi, ça me parle, c'était pas un nouveau monde pour moi d'avoir des enfants rapprochés. Agathe, elle est fille unique. Donc, voilà. Elle le dirait mieux que moi. Je pense que elle, à un moment donné, avec peut-être l'endométriose, tout ça, elle a eu peur de pas avoir d'enfants. Et ensuite, elle avait peut-être une appréhension à en avoir qu'un. Donc, chacun, on a vécu les choses un peu différemment. Ce qui est sûr, c'est que Voilà, on avait un peu cette ambivalence de c'est trop bien, on est trop content, c'est incroyable ce qui nous arrive, mais putain, ça va être dur, quoi.
Ouais, parce que vous saviez à quoi vous attendre cette fois-ci et que ça allait pas forcément être facile et à devoir gérer les deux. Ouais. Et du coup, comment ça s'est passé effectivement la deuxième grossesse avec Lazare en plus, vous avez réussi à tout gérer de front.
Ouais, écoute, surtout que là, on a réussi à tout gérer de front. Surtout que là, pour moi, le boulot, ça devenait, je rentrais dans des incubateurs, ça devenait beaucoup plus prenant. Agathe, elle avait son boulot, elle a des responsabilités à Marseille et tout. On est rentré dans un rythme assez costaud, quoi, où Agathe est enceinte, elle est fatiguée. Elle est dans un rythme où il faut qu'elle fasse attention à elle, attention aux petits, et en même temps elle a besoin d'épanouissement intellectuel, professionnel, besoin de sortir, besoin de voir des gens, pas être tout le temps dans les couches. Donc c'est vrai que franchement, c'est surtout marrant après de faire un podcast avec la femme, enfin avec le partenaire, parce que je suis curieux de ce qu'elle dirait.
On l'a souvent dit, ouais, de faire les questions-réponses un peu, tu vois, le pendant, le maman velours pour effectivement avoir la version féminine ou de l'autre parent. Clairement.
En tout cas, moi je me suis beaucoup donné, tu vois, souvent c'est moi qui, enfin en fait je crois que c'était comme ça, je déposais Lazare le matin, j'allais chercher Lazare le soir, je m'occupais des courses, et c'était comme ça, parce que de toute façon Agathe elle était à son 4e, 5e, 6, 7, 8 mois de grossesse, et que voilà, enfin je pouvais pas faire autrement, on pouvait pas faire autrement. Donc, la dernière période de 2021, septembre-décembre, ouais, c'était sportif.
T'avais gardé tes mercredis avec la
Non, là, j'avais plus les mercredis. Je travaillais tous les jours de la semaine. Et Lazare, c'était quelque chose comme 8h30, 17h, quelque chose comme ça. Donc, moi, je commençais ma journée à 9h. Je terminais ma journée à 16h30. Okay. Donc mon boulot depuis maintenant ça fait un an et demi, mais voilà, je sais, enfin voilà, j'ai appris à travailler entre ces horaires là. C'est un peu particulier, c'est très court, mais maintenant j'essaie d'être très efficace sur cette période là. Mais c'est sûr que je m'investis. Chacun a ses trucs, mais encore aujourd'hui, je dépose les gamins, je vais les chercher, pas tout le temps, on alterne un peu plus.
Et comment ça s'est décidé ça, enfin, je veux dire, c'était parce que effectivement, il y avait cette priorité donnée du coup au travail d'Agathe. Et toi, tu avais la chance peut-être d'avoir plus de flexibilité en tant qu'entrepreneur aussi.
C'est ça. C'était pas mal sur la flexibilité. C'était aussi parce que Agathe était fatiguée. Tu vois, elle avait enchaîné deux grossesses en 2 ans. Elle est fatiguée. Il faut qu'elle prenne soin d'elle. Et moi, je suis moins fatigué. Je peux me permettre, plus de pas me mettre dans le rouge, mais voilà, aller à droite, à gauche, en vélo, chercher Lazare, revenir, faire les courses, rentrer le soir et tout. C'est sûr que c'est une période où j'ai pas beaucoup pris de temps pour moi, quoi. D'ailleurs, je sens là que c'est du temps qu'il faut que je reprenne, parce que je peux pas passer mon temps à m'occuper de mes enfants et des autres et de ma boîte. Tu vois, c'est intéressant dans les dimensions qui sont importantes pour moi. Là, j'essaye de remettre un peu plus le curseur sur le temps que je passe avec moi-même, le temps qui me fait du bien pour moi et pas pour les autres. Mmh. Mais voilà, sur ces périodes-là, j'ai pas trop pris ce temps-là, et ça m'allait, et ça allait pour notre équilibre. Mais encore une fois, moi je peux pas rester un an comme ça, quoi.
Ouais. C'est quoi les signaux qui te disent un peu genre là du coup mon équilibre ne marche plus, il faut que je reprenne du temps pour moi?
Insomnie, irritation, énervement. Quelque chose qui est lié à... Donc moi, je fais beaucoup de sport. Ça, c'est... Et quand tu vois, quand je sens que... Mais ça, je le sens dans mon corps. C'est-à-dire, je sens que je sais pas, que je suis moins bien dans mon corps, tu vois, que je sens que je fais moins d'activité physique, ouais. Je sens que j'ai pas transpiré de par choix. À Marseille, tu transpires tout le temps en ce moment. Que t'as pas transpiré par choix, que t'as pas transpiré en faisant du sport depuis un moment. De fait, moi, je deviens, voilà, encore une fois, plus irritable. T'as les idées qui tournent dans la tête. T'as pas d'exutoire. Le nombre de fois où je me suis couché et au bout d'une heure trente, j'arrivais pas à dormir, je me suis relevé pour écrire tout ce que j'avais dans la tête et je me suis recouché et après ça allait mieux. Ouais, dans ces moments-là, là, je sais, je sens qu'il faut que je prenne plus de temps pour moi, quoi.
Mais il faut une bonne connaissance de soi aussi pour percevoir ces choses-là aussi, quoi.
Ouais.
Et du coup, tu nous as parlé un peu de ta boîte à travers tout ça, en fait, on sent la création aussi de Vista. Est-ce que tu peux juste nous repitcher Vista, comme ça on l'a bien en tête, et nous dire aussi peut-être comment tu as géré la famille et cette nouvelle création d'entreprise, quoi.
Vista, du coup, c'est une marque de ballons responsables. On est parti du constat qu'aujourd'hui, si on veut acheter un ballon, c'est forcément 100% plastique, pétro-sourcé, non réparable, non recyclable, fabriqué en Asie. Et donc nous, on propose un ballon où il y a 50% de matériaux upcyclés, fabriqués par des personnes en insertion, dont une partie dans un atelier d'insertion à Marseille. C'est des ballons qui sont réparables, dont l'empreinte carbone est deux fois plus faible que les ballons classiques. Bon, ça, c'est Vista. Et comment est-ce que c'est marrant, Vista c'est a vraiment grandi avec mes enfants, quoi. Il y a vraiment toutes les phases, hein. Il y a la première phase de l'idée, il y a la première phase de il n'existe que l'idée, mais on commence à chercher un prototype. Il y a ensuite la phase de on a un prototype, on va le vendre. Ensuite, il y a recherche de partenaires. Enfin, tu vois, vraiment, il grandit et Vista apprend à marcher en même temps que mes enfants, quoi. Donc ça, c'est. Il y a des ballons partout, évidemment, à la maison. Donc les enfants, quand ils rentrent le soir, ils sont trop contents de jouer avec des ballons. Ils sont trop contents, quoi. Ballon, c'est, je pense, c'est un des premiers mots qu'ils ont appris, quoi.
C'est eux qu'on fait tous les tests de résistance à la morsure, à la
ouais, ouais. Le
fait de s'asseoir dessus.
Non, mais franchement, au début, moi, tu vois, quand j'ai vu mes enfants jouer avec un ballon, je me suis dit, ah, mais oui, c'est un objet qui peut aller pour les enfants. Et du coup, je me suis dit, ah, c'est un objet qui peut aller pour les parents des enfants. Enfin, pour les parents qui veulent acheter un ballon pour leur enfant. Ça, c'est parce que j'ai vu mon enfant jouer avec et s'amuser avec et rigoler avec. On a des ballons où il y a des girafes, des éléphants dessus. Lazare, il dit, iraf, comme ça, en regardant le ballon. Non, c'est trop cool. Ça s'est fait, voilà, au rythme. Donc, moi, c'est pas la première fois que je crée une entreprise. Donc, un des trucs que j'ai retenu, c'est essayer d'être patient. Donc, je me suis pas excité tout de suite à vouloir tout faire tout de suite, très très vite. J'ai accepté du temps sur des projets de recherche. J'ai accepté du temps où ça fonctionnait pas. Et en même temps, j'avais envie j'avais un côté où je peux pas prendre non plus tout le temps de ma vie, quoi. Et voilà, je pense que ça s'est fait par phase. Il y a des moments où je pouvais bosser toute la journée chez moi, à faire des visios, machin, et à jamais avoir de temps pour moi. Et le soir, les enfants, les couches, le tunnel, les bains, le biberon, le dodo, et je me remets sur Vista. Et d'autres moments où, en fait, d'autres moments où en fait j'ai besoin de travailler plus tard, d'autres moments où, enfin, je pense que ça s'est fait vraiment par phase.
C'est des phases qui, enfin, dire c'était Vista qui marquait un peu ces phases, ou c'était dans le sens où c'était en fonction de l'activité de Vista, et s'il y en avait plus, ben en fait ça impactait du coup. C'était plutôt toi qui étais acteur, genre, enfin je sais pas comment dire, qui prenait un peu plus la main et tu disais bah là en fait. Pour mon équilibre, ça va être un peu moins de Vista, un peu plus de temps perso, un peu plus de famille, je sais pas.
Non,
comment t'arrives à jongler, ouais.
Non, je pense que c'est la fatigue qui jonglait, qui était le curseur.
Ouais.
Je pense vraiment que c'était ça. C'est-à-dire que le nombre de journées où j'ai commencé à bosser à 8h ou 9h et je me disais, oula, là, je vais pas finir la journée parce que je suis fatigué, parce que j'ai donné deux biberons dans la nuit, parce que Non, je pense que c'est le rythme, c'est pas moi qui l'ai choisi, je l'ai un peu subi. Ouais.
Et toi qui as entrepris sans être père et qui entreprends en tant que père, à part la fatigue, c'est quoi les différences un peu que tu vois, et où est-ce que même il y a des différences?
Ouais, il y a une différence. La différence vraiment majeure, c'est que quand tu entreprends sans être père, en tout cas moi quand j'ai entrepris sans être père, j'avais pas de limite en termes de temps de travail. Ce qui est d'ailleurs pour moi un problème hein, avec le recul. Mais je pouvais bosser, je sais pas, je pouvais bosser 12 heures par jour. Et j'étais passionné de ce que je faisais, machin. D'ailleurs, je sais pas si on va en parler, mais c'est ce qui a conduit à mon burn-out sur ma première boîte. Là, aujourd'hui, le fait d'avoir des enfants, ça veut dire que ma journée de travail, elle est entre 9h et 17h. Si je pars du boulot à 17h15, je suis en retard pour aller chercher les enfants. Donc c'est hyper. J'apprends à être hyper efficace. Je le suis pas tout le temps parce que, évidemment, il y a encore une fois la fatigue, il y a les trucs qui marchent pas, machin. Mais en tout cas, je pense que ce que je faisais avant en 12 heures, en termes de résultat final, aujourd'hui, je le fais en 8 heures. Parce que je suis plus efficace, parce que je travaille plus vite, parce que j'ai éliminé un paquet de trucs que je pensais qui étaient utiles et en fait c'est pas utile. Tu vois. Donc ouais, non, le fait d'avoir des enfants, ça a vraiment changé ma capacité de mon temps de travail et en bien, je pense. Moi je suis persuadé que on se crée beaucoup d'obligations à travailler beaucoup, soit pour montrer qu'on travaille beaucoup, soit pour se rassurer qu'on travaille beaucoup, mais qu'en fait il y a beaucoup de choses qu'on fait qui sont pas cœur dans le projet qu'on mène et qui sont plein de à côté. Et je crois que mes enfants ils m'aident à ça quoi. Je suis pas parfait là-dessus évidemment, mais mes enfants ils m'aident à me dire ok en fait. Enfin, tu vois, une sollicitation que quelqu'un me fait sur LinkedIn, ah, j'ai trop envie qu'on échange ensemble et tout. Avant, je disais oui et j'appelais la personne. Maintenant, je dis, ok, quel va être le sujet de la conversation? Est-ce que tu peux m'adresser tes questions par écrit? Machin. Et de ça, je vois si ça débouche sur effectivement un appel où on va prendre 3/4 d'heure, 1 heure, programmé dans la semaine. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être réglées à l'écrit. Aujourd'hui, je suis plus joignable par téléphone. Voilà, c'est tout. Bah ouais, le soir, j'écoute mes messages et je rappelle les gens qu'il faut. Mais en tout cas, c'est des choses que moi je mets en place pour être plus efficace dans la journée. Et c'est beaucoup grâce à mes enfants. Au début, c'est contraint, hein, mais maintenant, je suis content.
et t'as mentionné le fait qu'effectivement, ta dernière expérience entrepreneuriale avait résulté d'un burn-out. Est-ce que tu peux rapidement nous dire effectivement les causes et comment tu t'en es rendu compte? Et aussi, comment tu en es sorti de ce burn-out? Et peut-être qu'est-ce que tu ne ferais pas aujourd'hui? La question est super longue. Et qu'est-ce que tu ne ferais pas aujourd'hui pour pas retomber dans cet état-là? Et peut-être qu'en fait, les enfants sont aussi une partie de la réponse, je sais pas.
C'est marrant parce que sur cette question dans laquelle il y a plusieurs questions, donc ça fait l'objet d'un enregistrement que j'ai fait qui dure 1h30.
Ok, donc tu vas nous pitcher,
je vais essayer de
inviter les gens à aller voir parce que l'idée c'est de faire un focus là-dessus, mais comme tu l'as mentionné, c'est intéressant que les gens entendent ça.
Non, mais en gros, donc j'avais créé ma boîte, j'étais au Pérou à l'époque, et je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. On fait du bien autour de nous, c'est une entreprise sociale, on nous dit qu'on fait du bien, j'ai beaucoup de gens qui nous disent franchement bravo, c'est trop bien. On a un enjeu de financement parce qu'on crée de la valeur financière pour les personnes qu'on accompagne, mais on n'arrive pas à capter cette valeur financière. Mais on est très reconnu, on est invité, tout ça. Moi, je travaille beaucoup, vraiment, quand je dis beaucoup, c'est-à-dire, c'est ça, hein, c'est-à-dire de 8h à, je sais pas, 20h, 21h, 22h parfois, quasiment tous les jours. Voilà. Je rentre dans un truc où je suis stressé pour cette question financière. J'ai des symptômes qui arrivent, irritation, insomnie, essoufflement, machin. Je me dis allez, ça va le faire. Et là, les symptômes s'accélèrent, presque s'aggravent. Je commence à avoir des palpitations, je commence à avoir des décharges un peu dans la tête. Je commence à avoir des fourmis un peu partout. Je passe les je passe les détails, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me retrouve aux urgences. Et là, je le fais très vite, hein, mais je me retrouve dans un corps d'une personne qui a 100 ans, quoi. J'arrivais plus à manger, j'arrivais plus à marcher, j'arrivais plus à penser. Pour te dire, j'ai eu besoin de 8 mois au RSA chez mes parents pour le début de ma rémission, c'était ça. Ensuite, j'ai trouvé un travail, entre un travail start-up payé 60 000 euros par an et un travail conseil pépère payé 35 000 euros par an, j'ai pris le travail conseil pépère le moins bien payé. Et entre le moment de mon burn-out, après mon burn-out, j'ai eu besoin de 2 ans avant de récupérer ma forme physique d'avant, tu vois. Donc c'était c'était très fort, j'étais sous anxiolytique, sous somnifère. Ça c'était pour répondre à ta question de le burn-out, quoi. Ouais. Comment j'en suis sorti, c'est plein de sujets, mais c'est déjà beaucoup accepter les médecins, accepter l'accompagnement, accepter que t'es plus la même personne, accepter que ça prend du temps, essayer de comprendre pourquoi t'es rentré là-dedans. Ouais. Et vraiment, tu vois, aller chercher loin les éléments un peu émotionnels, les blocages que t'as eu, les trucs familiaux, les expériences, le besoin de prouver à moi, aux autres, tout ça. Et oui, aujourd'hui, j'ai encore des séquelles surtout psychologiques, c'est-à-dire que mon cerveau, il a enregistré une peur de ce qui pouvait m'arriver. Mmh. Et donc, quand je commence à être trop surmené, mon corps m'envoie des signaux qui me rappellent l'état dans lequel j'étais, tu vois les décharges dans la tête, les tempes qui gonflent et tout. Donc quand j'ai ça, je sais que c'est des gros signes et il faut que je lève le pied. Les enfants, en gros, d'un côté ça m'aide beaucoup parce que ça me permet de sortir de la tête le travail. Et en fait, t'es obligé. Je veux dire, à 18h, je suis en train de changer des couches, je suis en train de préparer des biberons, je suis en train d'essayer de faire chauffer un plat parce que l'autre, il veut pas ses pâtes, il veut des nouilles. Et donc, de fait, je déconnecte. Maintenant, avoir des enfants, c'est aussi avoir une charge mentale de malade en plus. Ouais. Et sur laquelle il faut arriver, en tout cas pour moi, il faut que j'arrive à prendre du temps de qualité pour moi, pour pas non plus rentrer dans un burn-out des enfants, tu vois. Ouais. Parce que c'est un gros sujet aussi. En tout cas, ça m'a donné un recul de l'expérience, des clés de lecture pour avoir un peu des warnings, tu vois, des warnings sur, mon irritation, c'est pas normal d'être irrité comme ça. Ma manière de parler à mes copains, à Agathe, là, je sens que c'est pas normal, c'est pas moi, c'est moi irrité, c'est moi fatigué, donc lève le pied. Ma manière de faire du foot, si je suis trop fatigué, si je suis complètement épuisé quand je fais un foot, bah là, je suis en train de me dire, oula, reprends peut-être un peu physiquement, tu t'es peut-être un peu laissé, tu vois. Après, je fais avec ce que je peux. Je veux dire, le sommeil, c'est ça. Hein. Je veux dire, le petit qui se réveille la nuit.
Tu choisis pas ça.
Tu choisis pas, quoi.
Ouais. Non, merci pour ce partage. Et effectivement, c'est intéressant de voir tout ce que tu as pu apprendre et réussir à mettre en place, effectivement, ces mécanismes. Enfin, en tout cas, le corps est bien foutu et même lui-même, ses mécanismes. Mais il faut savoir les écouter. Et je pense que c'est pas si facile que ça. D'une part, d'écouter et de mettre le plan d'action derrière, de dire, OK, je ralentis. Et ouais. C'est pas toujours évident. Je trouve de ralentir parfois dans notre société, de voir tous les, quand on se connecte sur les différents réseaux, on voit que tout le monde est en train de faire plein de trucs, etc. Et tu te dis, bah, ouais, mais si, mais j'ai envie de faire plein de trucs et c'est parfois dur de ralentir.
Ouais, c'est super dur de ralentir. C'est super dur de se dire qu'il faut ralentir. C'est super dur d'accepter que tu maîtrises pas. C'est super dur de monter. Et puis c'est super dur de dire que ça va pas. Mmh. Tu vois, genre moi parfois j'ai mes potes au téléphone. Maintenant je sais un peu. J'ai des potes à qui je peux dire. Il y a des potes à qui je dis putain genre là mec ça va pas du tout. Je dors pas, c'est chaud. Je sais pas comment je vais faire et tout. Et j'ai des copains qui me disent allez t'inquiète JB ça va le faire. En fait j'ai pas besoin de ça quoi. Genre j'ai un autre pote je pense à lui là. Parfois, je l'appelle, je dis, putain, mais là, je pète un câble, j'en peux plus, machin. je sais pas, il m'écoute. En tout cas, il m'écoute. Il me dit, putain, je compatis, je sais pas quoi, j'en sais rien. Mais en tout cas, il me dit pas, allez, t'inquiète, accroche-toi là, vas-y, ça va aller. Et ouais, et en fait, là, dans ces moments-là, j'ai pas envie de m'accrocher, tu vois. J'ai envie de tout laisser tomber. Et c'est trop dur. Enfin, c'est dur. Bon, bref, donc, c'est peut-être mon milieu, c'est peut-être mes potes, c'est peut-être je sais pas quoi, mais je trouve qu'il y a un côté. Ouais. Et d'ailleurs, je le vois même, tu vois, j'essaie d'avoir un peu plus, de créer un peu plus de contenu sur ça, sur LinkedIn, là où je communique pas mal. Bah, de fait, les posts où je dis c'est pas facile, y a toujours quelqu'un qui va dire, ah, mais tu sais, tes enfants, tu peux les laisser pleurer la nuit, hein. En 3 jours, c'est réglé. Je te jure, hein, j'ai des commentaires comme ça. Je suis là, ok, merci pour le conseil.
Ouais. Oui, personne va te dire, il y a moins de gens qui vont te dire, effectivement, qui vont t'écouter et qui vont dire, effectivement, ouais, je compatis avec ce que tu vis. C'est moins tendance, effectivement, d'avoir cette démarche-là, quoi.
En fait.
Mais en même temps, ça parle aux gens, je pense, hein. Je pense que ça parle. C'est peut-être ces posts-là où, en fait, même si personne va potentiellement commenter ou liker, mais c'est peut-être les posts où les gens sont le plus touchés et après, il y a peut-être cette peur aussi sur LinkedIn parce que tout le monde voit ce que tu likes. Donc, en fait, peut-être que tu as peur de liker ce truc-là. Bref, on rentre dans des mécanismes un peu complexes. Mais je pense que c'est peut-être les posts qui touchent le plus les gens parce qu'en fait, tout le monde, comme tu disais tout à l'heure, on n'est pas des surhommes, on n'est pas des surfemmes. On a le droit de se laisser, enfin, d'être fatigué, on a le droit d'être en colère et de ne pas savoir faire parfois.
Ouais, clairement. Pour moi, il y a un peu un juste milieu entre le fait de dire « Allez, accroche-toi, c'est bon, ça va passer » et le fait de dire « Oh, mais je suis méga désolé, ta vie doit être hyper dure, c'est franchement, je te plains. » Enfin, tu vois, j'ai un peu les deux, quoi. Mais je trouve qu'il me manque un peu l'entre-deux de « Putain, mec, ok, c'est dur. Ouais, c'est dur. » Je sais pas, tu vois. Enfin, et moi, je sais pas. Genre, juste un truc d'accepter de que tu puisses le dire sans forcément qu'on te donne des trucs à faire, qu'on te donne des conseils, qu'on te plaît. Enfin, si qu'on te plaît. Moi, parfois, j'ai bien envie qu'on me plaît. Enfin, bon, bref, je suis compliqué aussi, mais.
Très bien. Un grand merci pour le partage, en tout cas, sur cet épisode et puis effectivement sur comment t'es ressorti de cet épisode de ta vie du burn-out. Peut-être pour finir, on parle de toi, mais en tant que père, comment toi tu essaies de progresser en tant que père et comment tu, ouais, est-ce que t'as des techniques pour progresser en tant que père?
Waouh. Est-ce que j'ai des techniques pour progresser en tant que père?
Ou des ressources, et on parlera d'ailleurs de la ressource que tu vas bientôt proposer à tous les parents. Petite transition pour faire toi. La promotion de ta newsletter aussi, mais.
Je pense pas à un truc en particulier. En fait, j'essaye d'être le plus. J'essaye vraiment d'aller chercher qui je suis au fond de moi, tu vois. C'est-à-dire, j'essaye d'enlever les masques. J'essaye d'enlever les. Encore une fois, c'est une grosse claque le burn-out, mais j'essaye d'enlever les choses que j'essaie de prouver. J'essaye, tu vois, prouver à moi-même, prouver aux autres. J'essaye d'être moi. J'essaye de de m'allonger dans mon salon et juste d'observer mes gamins et de rigoler avec eux et de leur faire des chatouilles avec mon nez et de lancer un ballon à Lazare pour voir si pour voir comment il progresse sur le fait qu'il l'attrape, qu'il me le relance.
C'est ces moments-là qui te disent effectivement si t'es le père que t'as envie d'être, que tu es au fond de toi finalement.
Ouais, voilà, vraiment j'essaie. Tu vois, moi je suis pas très bouquin parentalité ou en tout cas peut-être que j'ai pas trouvé ce qui me parlait. Mais comment j'essaie d'être un meilleur père, c'est vraiment une belle question, quoi.
Ben je la pose à chaque fois, mais je sais même pas si moi je pourrais répondre à cette question là, donc non, c'est dur. Mais du coup, tu disais juste tout à l'heure que effectivement tu trouvais pas forcément les ressources peut-être sur ce sujet là. Toi, du coup, tu as voulu proposer une ressource, enfin, tu vas proposer du coup une ressource. À savoir une newsletter pour parler entrepreneuriat et parentalité. Qu'est-ce que tu as envie de dire à travers ce média-là que tu vas créer?
Ouais, c'est vraiment en fait, enfin, nous on a une vie qu'on aime beaucoup, qu'on adore, mais qui est costaud. Enfin, c'est-à-dire, moi j'étais pas préparé à ça. T'as ta journée d'entrepreneuriat, t'es continuellement stressé parce que tu lances le projet. Il y a des enjeux financiers, il y a des enjeux de recrutement. Enfin, il y a tous les enjeux du monde. Et à 17h, tu débranches. Enfin, t'es censé débrancher parce que tu vas t'occuper de tes enfants. T'es censé débrancher, je dis bien, parce que le nombre de fois où en fait j'étais avec mes enfants, mais je pensais au boulot, j'avais qu'une envie, c'était de terminer le mail que j'avais pas terminé, c'était de monter le dossier que j'avais pas pu monter, et voilà. Et en fait, quand on parle, moi dans mon entourage, il y a peu de parents entrepreneurs. Et donc, c'est un peu comme moi quand j'étais en CDI, tu vois, je trouvais que c'était beaucoup plus facile d'arrêter d'y penser au moment où tu sors, parce que c'est pas ton bébé, c'est pas ton projet. Oui, tu peux avoir des stress avec le boulot, mais et donc je trouve que, tu vois, les personnes qui entreprennent, il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose de dingue, tu vois. C'est des personnes qui veulent changer des choses, c'est des personnes qui ont la force de passer d'une idée à une réalité, c'est des personnes qui mettent une énergie de dingue dans des projets, c'est des personnes qui sont multitâches. Et en même temps, c'est des personnes qui se retrouvent à changer les couches, à prendre des rendez-vous de médecin au milieu de la journée. C'est des personnes qui, toi, doivent donner une énergie de dingue dans leur journée, alors qu'elles dorment pas 6 heures d'affilée la nuit. Tu vois, genre, comment on fait en fait? Moi, ça fait 6 mois que j'ai pas une nuit complète. Et bah la journée, tout le monde s'en fout. Hein. Enfin, c'est normal d'ailleurs. T'entreprends, tu dois impulser, tu dois donner de l'énergie, tu dois gérer tes équipes qui sont un peu moins bien, qui font les choses pas top, tu dois gérer tes frustrations, gérer les frustrations des autres, gérer les clients, gérer tes partenaires, alors que t'as des cernes comme ça, et que tu penses que ton petit, il a... bref. Donc ça, tu vois, je cherche pas trop des conseils ou quoi. En tout cas, des partages, tu vois. Des partages, c'est un peu ce que je retrouve aussi dans ton podcast. C'est se sentir avec, tu vois. Pas se sentir seul dans un monde où t'es parent et entrepreneur. Ça fait du bien de se retrouver entre entrepreneurs. Tu vois, on sait tous ça, on sait tous que du coup, on évoque les mêmes sujets, on évoque les mêmes outils, on évoque les mêmes problématiques, on évoque. Et ben, pourquoi pas se retrouver entre parents et entrepreneurs, parce que du coup, voilà, t'évoques ces deux sujets qui sont, je sais pas, deux piliers de ta vie, quoi. T'as envie de réussir dans les deux, t'as envie que les deux se passent bien. Et voilà, et on sait que l'entrepreneuriat, ça fait du bien de parler des réussites, mais avant les réussites, il y a un paquet d'échecs, il y a un paquet de frustrations, il y a un paquet de trucs qui vont pas bien.
Ouais.
En fait, c'est pareil pour les gamins. Enfin, je veux dire, donc partager ces choses qui peuvent être plus dures, plus frustrantes, mais aussi des belles joies, tu vois. Enfin, je veux dire, putain, mon gamin, ça y est, il marche, ça y est, il parle, ça y est, il fait je sais pas quoi. Ben, c'est trop cool. Bon, voilà. Donc j'avoue que j'ai un peu cherché, j'ai un peu ruminé, j'étais là, mais comment font les autres? Comment font les gens qui ont leur boîte, qui pensent du matin au soir, qui en même temps ont leurs enfants à gérer, et qui en même temps, merde, il y a plus de petits pots, putain, on fait comment? Les couches, ouais, c'est... Bon. Et puis en plus, on essaye, tu vois, d'avoir un truc un peu... d'avoir un peu un truc écolo, enfin d'avoir un truc un peu écolo, tu vois, c'est-à-dire que si on peut éviter bon bref, tu vois, on essaie d'avoir des couches X ou Y, on essaie de consommer local, et en fait ça rajoute une charge mentale de en plus, tu vois. Ouais. Genre, en fait, tes fruits, tu peux pas les acheter, tu veux pas les acheter n'importe où, tes fringues, tu veux pas les acheter n'importe où, tes couches, tu veux pas les acheter n'importe où. Enfin bref, donc franchement, c'est pour ça, voilà. Je sais pas si ça va avoir de l'écho, je sais pas si j'ai bien trouvé la manière de le partager, mais...
Mais c'est ça que tu vas raconter du coup dans ta newsletter qui s'appelle Par Entrepreneur, c'est ça?
Par Entrepreneur, ouais. pour l'entrepreneur. C'est ça que je vais raconter, ou au moins c'est ça qu'on va essayer de partager. Tu vois, l'idée, c'est pas que moi je raconte ce qu'on fait, mais c'est que peut-être on se raconte des histoires, des trucs marrants ou des trucs pas marrants. Voilà, l'intuition au départ, c'est un peu partager une ressource parentalité et une ressource entrepreneuriat.
Ouais.
Un truc, un nouvel outil que t'as découvert et les couches bio lavables que moi j'ai jamais essayé par exemple, mais que peut-être quelqu'un va me dire essaye, c'est trop cool et c'est mieux pour l'environnement.
Je serai le premier abonné du coup de l'année d'État parce que je me retrouve bien là-dedans en tout cas. Trop bien, merci Jean-Baptiste. Peut-être la dernière question, si tu reviens un peu en arrière et qu'est-ce que tu dirais au Jean-Baptiste qui revient du coup de voyage de noces, de ces quatre mois en Europe là, et qui va apprendre quelques mois après qu'il va être papa.
Je lui dirais essaye, ah ça c'est un truc, franchement moi je regrette, mais c'est un truc, essaye de pas t'énerver, essaye, je lui dirais ça. Essaye. Genre, ok, c'est dur. Ok, tu vas être fatigué. Ok, tu vas être frustré. Mais essaye. Genre, tes gamins, ils sont pas responsables de ça. Essaye de prendre sur toi. Essaye de tenir une seconde de plus. Essaye de relativiser. En fait, t'es vivant après 6 mois à pas dormir 6 heures la nuit. Ok, c'est dur. C'est pas la fin du monde. Beaucoup de parents sont déjà passés par là. Donc voilà, franchement c'est ça, c'est tu vois, quand tu me poses la question, c'est ça qui vient en premier.
C'est pas sûr qu'on y arrive, mais essaye déjà.
Essaye. Ça va être dur. Tu vas aller dans tes retranchements, dans des trucs que t'as jamais connus, dans des états de fatigue que t'as jamais connus, dans des états d'énervement que t'as jamais connus, mais aussi dans des états de proximité, de complicité avec ta femme, qui sont dingues quoi. Mais voilà. Essaye.
Ça sera le mot de la fin du coup. un grand merci Jean-Baptiste pour ton partage, ta transparence sur tous les sujets. Et puis, je souhaite une longue vie à Vista et puis à ta petite famille.
Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté.
Un immense merci à Jean-Baptiste pour cet épisode, pour sa transparence, d'avoir évoqué tous ces sujets avec nous. Merci aussi à vous qui écoutez ce podcast et ce 19e épisode de Papa Velours. On arrive bientôt au 20e et dernier épisode de la saison 2. Du podcast. Donc voilà, si vous voulez continuer à encourager ce podcast, je vous invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, sur Spotify, mettre un commentaire et surtout de partager cet épisode à au moins 2 papas autour de vous. On se retrouve très vite pour le prochain épisode.